Nous revoilà, 19h21, aux amateurs de sport. Donc, je vous le rappelle, Canadiens contre les Blues demain. Le match est présenté un petit peu plus tard. Donc, on aura une émission des amateurs de sport de 19h, de 18h30 à 19h30. C'est à ne pas manquer. Beaucoup de gens qui m'écrivent au sujet de Tarasenko. Il y a pas de, tu sais, ce sont des rumeurs, évidemment. Elles proviennent, il y a eu des écrits là-dessus, à quelques reprises cette année. On dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est comme dans le temps de Subban, personne croyait qu'elle allait être échangée, puis à un moment donné, elle a été échangée. Est-ce que c'est une histoire semblable dans le cas de Tarasenko? Et on a vu aussi des équipes oser échanger des joueurs importants. Il y en a eu des transactions comme ça dans les dernières années. Là, je me rappelle de celle impliquant Johansson avec Columbus et Nashville. Bon, Canadien, Gad Chenyok, Pacioretty, Subban Weber. Il y en a plus qu'il y en avait. Il n'y en a pas des tonnes. Ça se passe l'été généralement, mais il y en a de temps en temps. Danny Dubé est avec nous en direct de Saint-Louis. Bonsoir, Danny.
Bonsoir, Mario.
Serais-tu surpris, juste pour classer ça en partant, que les Blues se départissent d'un Tarasenko qui est sous contrat jusqu'en 2000, je l'avais tantôt, jusqu'en 2022 ou 2023, on va te donner ça bien
précisément. Oui, je serais surpris, Mario, je serais surpris parce que ce qui manque aux Blues de Saint-Louis, c'est un gardien de but. C'est tout ce qui manque à Saint-Louis pour avoir une équipe compétitive, c'est un gardien de but. Mike Yeo, ici, l'entraîneur avant, faisait de l'excellent travail, mais n'a pas été capable de trouver la potion magique pour transformer Jake Allen en gardien de but solide. Jake Allen, c'est un bon gardien, mais c'est pas un gardien de but élite. L'équipe des Blues de Saint-Louis a besoin d'un gardien de but élite. C'est comment ça se départir de ses pièces maîtresses sans penser à remplacer son gardien. Je pense qu'ils font fausse route. Ils ont fait un bon bout de chemin. Ici, on a déjà pensé, parlé de la Coupe Stanley. Et pour paraphraser mon ami et collègue Philippe Quentin, ici, la fenêtre est grande ouverte.
Mais dans le cas des Blues, là, on peut dire qu'ils sont, bon, sont en cave pas mal dans l'Ouest. Ils sont pas dans les équipes qui vont participer aux séries. Et je reprends plusieurs des arguments que tu as exprimés ici dans le cas du Canadien de Montréal. Et par rapport à toutes les équipes, c'est que les équipes ne se construisent plus nécessairement par le filet ou devant le filet. Donc, penses-tu que c'est vraiment...
Non, mais ça prend... Ce que j'essaie de dire, c'est que ça prend de la stabilité.
Ouais.
Pas besoin d'une vedette, mais ça prend un gars stable.
Ça a été stable, mais mauvais. Ou pas assez bon, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je fais attention parce que, dans le fond, là, on veut montrer un peu de respect pour les gars qui sont là.
Bien sûr.
C'est pas facile. Mais en même temps, je suis obligé d'appeler un chat un chat. Pour moi, c'est un gardien de but qui est en dessous de la catégorie des gardiens de but qui peuvent jouer dans une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley. Puis là, on peut sortir toutes les équations qu'on veut. Tu sais, à un moment donné, maintenant, ça prend de l'offensive. Je pense que la démonstration est faite à travers la Ligue nationale. Donc, Tarasenko est un joueur important. Tu peux pas te départir d'un gars comme Tarasenko comme ça. Si tu vas dans cette direction-là, c'est vraiment toute ton équipe que tu vas remettre en question puis repartir à zéro d'une certaine façon. Moi, je pense qu'ils sont trop près de certains résultats pour aller dans cette direction-là. Moi, si j'étais le directeur général, je serais prêt à concéder un premier choix pour avoir un gardien de but établi au sein d'une équipe qui ira pas en série. Est-ce que ces gars-là sont disponibles? J'en sais trop rien. Est-ce qu'on peut prendre une chance avec un gars qui a déjà eu un certain succès puis qui est plus dans une portion de sa carrière où il commence à être supplanté par un plus jeune? Prenons l'exemple de Bishop avec Dallas. Bon, Bishop a changé d'adresse à cause du talent extraordinaire de Vasilevskiy. Est-ce qu'il y a d'autres situations comme ça dans la Ligue nationale actuellement? Honnêtement, j'ai pas fait l'exercice, mais ça vaut la peine de le faire.
Juste avant de te parler du duo Domi-Drouin et d'un éventuel trio selon leurs partenaires, entre Jordan Eberle, tous des agents libres sans restriction, des ailiers droits, entre Eberle, Simmons et Nyquist. Et évidemment, on peut considérer que ça sera pas le même prix pour les trois. En considérant le prix de chacun d'entre eux, lequel des joueurs t'attirerait le plus pour aider le Canadien sur un trio à l'aile droite? Eberle, Simmons ou Nyquist?
Ben écoute, le Canadien, c'est une équipe qui patine. Donc, pour moi, l'ADN de l'équipe, c'est très important. Il faut que le joueur soit en mesure de patiner avec les gars du Canadien. Mais si j'étais sur une situation de court terme, le joueur de location, pas un joueur que je veux signer, c'est Simmons que j'irais chercher. Parce que je trouve que lui, c'est le joueur qui amène plus de dimension qu'on n'a pas chez le Canadien de Montréal. Il amène un petit peu de... Il patine pas comme les joueurs du Canadien, mais il amène un petit peu d'Andrew Shaw avec une meilleure prestance autour du filet. Puis je pense qu'entouré de vitesse, ça pourrait être pour lui, là, arriver à Montréal, ça pourrait être la fontaine de jouvence. Il pourrait trouver ses jeunes gens.
Absolument. Il risque de coûter cher. Alors, je doute que Marc Bergevin embarque là-dedans, à moins d'avoir l'assurance via l'agent qui peut le signer pour un contrat de quelques saisons par la suite et donc le garder un peu à l'image de la transaction qui a amené Jeff Petrie à Montréal. Et dans le cas d'un joueur de location, je ne sais pas s'il oserait payer le gros prix. Je ne sais pas si Eberle ou Nyquist coûterait beaucoup moins cher en quelques secondes, Danny.
Nyquist, à ce moment-là, tu sais, c'est sûr que c'est un gars qui l'expression qui cadre. Tu sais, dans un court laps de temps, le prix est payé. Je connais pas les ambitions de chacune des équipes. Je n'ai pas parlé avec les gens dans l'entourage de chacune de ces équipes-là. Ça, un jour, ça va arriver si les choses s'intensifient. Mais à ce point-ci, tu sais, on est dans l'hypothèse. Moi, je pense que le Canadien va pas sacrifier grand-chose cette année. Parce que tant que Kotkaniemi ne deviendra pas le centre numéro un du Canadien de Montréal, tant qu'il n'aura pas supplanté Domi, ça sert à rien de faire...
Des
aménagements, là, ouais, c'est ça. C'est vraiment du court terme à ce moment-là. Tu concèdes des choix de repêchage qui sont pas trop tôt pour avoir un joueur qui va venir t'aider sur un court laps de temps, comme Vanek l'avait fait, exemple, une année avec le Canadien. Ça, c'est le genre de transaction que je pourrais voir.
Je pense que la réalité, là, c'est ça. C'est tout à fait logique par rapport à la réalité du Canadien en 2019. Bien vite, juste parce que tu viens de mentionner le nom de Vanek. Tu l'as vu jouer hier. Nous autres, on le levait à la télé. Tu étais sur place. Vois-tu une équipe aller le chercher encore pour le dernier droit des séries? À chaque année, il y a une équipe qui va le chercher. Y a-t-il encore quelque chose à amener à une équipe ou il rend-tu tranquille pas mal en attaque?
À tous les matchs, il y a peut-être 40 minutes, tu te demandes s'il est habillé. Puis pendant 10 minutes, tu sais qu'il est habillé.
Il n'a pas changé?
Il n'a pas changé. Ces gars-là, ils te font donner. Ils ne cadrent pas du tout avec l'ADN du Canadien. Mais sur un court laps de temps, à cause de l'avantage numérique, des difficultés du Canadien, à quel point il est bon, pas seulement pour jouer sur l'avantage numérique, mais pour aider les entraîneurs à trouver des solutions. Écoute, lui, s'il devait être entraîneur, il serait un spécialiste de l'avantage numérique tout de suite. Maintenant, tout le monde place un joueur devant le filet. Là. Puis Vanek, c'est peut-être un des meilleurs. Là. Il est au sommet de son art. Faire dévier des rondelles, placer son bâton. Il est tellement conscient où la rondelle est placée. Il a des grandes qualités. T'sais, c'est un joueur que, moi, écoute, c'est sûr qu'il est en fin de carrière. C'est sûr que sur une base régulière, c'est pas
34 ans.
Tu peux voir dans ton alignement là, prendre bien des minutes. Mais mettons que tu le fais jouer sur un quatrième trio puis tu l'utilises comme un spécialiste d'avantage numérique, puis bien entouré sur un quatrième trio avec de la vitesse, là. Je veux dire, c'est un gars que je considérerais pour toutes les raisons que j'ai mentionnées.
Ben, tu me surprends, mais en même temps, écoute, je t'en ai parlé, c'est parce que je l'avais pas complètement écarté, mais c'est intéressant. Écoute, on verra bien.
Le Canadien n'est pas capable de marquer
incroyable.
Un avantage sur une base régulière. Alors, écoute, c'est une équipe rapide, c'est une équipe qui devrait être capable de réussir ça, puis ça fonctionne pas. Évidemment, on sait très bien que ça a beaucoup à voir avec... la qualité de tes tireurs. Tu sais, le Canadien, c'est une équipe qui a bâti son succès sur le collectif. Quand tu arrives en avantage numérique, c'est pas très collectif, c'est très, très individuel. C'est la qualité des joueurs, puis à qui tu donnes la rondelle, puis qui organise le jeu. Il y a eu une époque où tu avais David Desharnais, c'était pas une vedette dans la Ligue nationale, mais tu savais une chose. En allant en avantage numérique, remarque que le jeu a changé depuis, là. En allant en avantage numérique, tu disais, donnez la rondelle à Desharnais, placez-vous. Mm-hmm. Ça, c'est l'ancienne méthode, mais c'est-tu quoi? Quand t'as le joueur pour le faire, c'est encore la méthode.
C'est encore la bonne.
c'est encore la bonne.
Danny, complément d'information dans le dossier Tarasenko, qui est un complément d'information quand même important parce que c'est qu'il y a une clause de non-échange qui entre en vigueur, lui, à partir de la saison prochaine. Fait que lui, il a sa destinée entre les mains à partir de la saison prochaine. Armstrong, il y a encore cette année, là, jusqu'au mois de février, pour décider de l'avenir, ou à la limite jusqu'au prochain repêchage, comme dans le cas de Subban, où sa clause entrait en vigueur. Alors, juste pour mettre ça donne un peu plus de sens au fait que Tarasenko soit dans les rumeurs. Ça veut pas dire qu'Armstrong va transiger. Maintenant, je voulais absolument te parler de Domi et Drouin. Ça fait quelques matchs que je me dis qu'il serait peut-être temps de les séparer. Ne serait-ce qu'une période ou un match ou quelques matchs. Comment vois-tu ça? Ou ils souffrent de l'absence de Shaw. Je pense pas qu'Armia leur amène la même hargne ou amène Gallagher avec eux autres de façon temporaire. Mais je sais, tu l'as dit hier dans le reportage, comme Ron, t'hésiterais à toucher à ton deuxième trio.
Oui, c'est ça. J'hésiterais à toucher à mon deuxième trio. C'est là où c'est comme une espèce de l'œuf ou la poule. Là, parce que, en fait... Tu sais, le gars que ça prend pour jouer avec eux, c'est Gallagher. Quand je parle avec eux, c'est avec Domi et Drouin.
Vraiment.
Et en même temps, je pense que sur le plan individuel, nos deux les deux personnes intéressées, soit Drouin et Domi, ont à se regarder dans le miroir.
Ben vraiment. Je t'écoute là-dessus. Qu'est-ce qu'ils doivent faire mieux? Est-ce que Jonathan Drouin, dans un extrait sonore qu'on va entendre avec Martin tout à l'heure, dit que finalement, ils font la même affaire, l'éthique de travail est la même. Sens-tu qu'ils travaillent autant, toi?
Moi, je sens qu'il travaille autant. Je pense qu'il manque beaucoup il manque beaucoup de Andrew Shaw dans l'affaire. Je pense que l'absence d'Andrew Shaw, ça leur fait très mal. Je trouve aussi qu'ils sont beaucoup trop en périphérie. Au début de l'année, ils ont réussi à attaquer le centre de la glace avec régularité. Là, les équipes se sont ajustées, puis ça devient difficile pour ces joueurs-là de s'ajuster. Les entraîneurs donnent des pistes. On l'a vu aujourd'hui, puis je vais te le partager tout de suite. On l'a vu aujourd'hui, mais c'est moins facile que c'était. Pourquoi? Parce que là, on a passé une période, on a dit, OK, on va vraiment mettre de la pression sur les ailiers du Canadien. Donc, on va pincher. On pinche les ailiers, le jeu souricière. Donc, on va les chercher dans leur zone, puis on les empêche de partir, puis de prendre de la vitesse. Pendant un certain temps, ça a marché, le Canadien s'est adapté. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on place 5 joueurs en zone neutre. Il y a un seul joueur qui est en mouvement, qui dévie l'attaque d'un côté comme de l'autre.
Il te reste 20 secondes, Danny.
Une fois que t'es le long de la rampe, c'est pas mal plus dur de rentrer dans le centre de la glace. Et c'est là où le Canadien réussit pas à le faire, particulièrement ces deux joueurs-là.
Danny, je te remercie beaucoup. Et on poursuit la discussion demain en avant-match des Blues contre les Canadiens. Oui. Bonne soirée là-bas.
Parfait, merci.
Bye-bye. Un mot pour vous dire que Félix Auger-Aliassime a subi l'élimination à Melbourne aujourd'hui. C'est incliné en 2 manches contre Chris Eubanks. On vous revient après la pause avec Bruno Eppel. On va parler des Alouettes et d'Hugo Richard.